Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le livre de référence du design humain, sous-titré « La science de la différenciation », est une présentation en français du système de design humain attribué à Rao Ruhu et édité par Linda Bunnell. Cet ouvrage de référence appartient au domaine de la connaissance de soi et des systèmes typologiques. Il expose une méthode qui combine, selon ses propres principes, des données de naissance avec plusieurs traditions symboliques afin de produire une carte individuelle, souvent appelée schéma corporel ou body graph. Le livre vise à rendre lisibles les éléments fondamentaux de cette carte, notamment le type, la stratégie, les centres, les autorités décisionnelles, les profils L-circuit. Son ambition est moins de proposer une psychologie expérimentale que de fournir un cadre interne cohérent pour observer les différences de fonctionnement entre individus. La différenciation désigne ici le fait de ne pas réduire les personnes à une norme unique. La lecture demande donc de distinguer la description offerte par le système de sa validation scientifique au sens académique, qui ne relève pas du même registre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le schéma corporel comme carte centrale du système. Le point de départ du livre est la carte de design humain calculée à partir de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Cette carte organise visuellement les notions du système et sert de support à toute interprétation ultérieure. Elle reprend une structure de 9 centres reliés par des canaux et des portes, avec des zones définies ou non définies. Dans la logique de l'ouvrage, une zone définie renvoie à une énergie ou à un mode de traitement relativement constant, tandis qu'une zone non définie décrit une plus grande réceptivité aux influences et aux variations du contexte. Cette distinction est essentielle, car elle empêche de lire la carte comme un simple portrait de trait fixe. Elle propose plutôt une répartition entre régularité personnelle et lieu de conditionnement possible. Le livre ne présente pas ce schéma comme un diagnostic médical ou psychologique. Il faut le comprendre comme le langage visuel spécifique du design humain. Sa valeur pratique pour les lecteurs intéressés par cette approche réside dans la possibilité de relier des expériences répétées à une architecture symbolique unique. Sa limite doit aussi être explicitée. Les correspondances proposées appartiennent à un système interprétatif et ne constituent pas des preuves empiriques sur la personnalité ou le comportement. Deuxièmement, type et stratégie pour encadrer les interactions et les initiatives. Le livre accorde une fonction structurante aux types de design humain et aux stratégies qui leur sont associées. Ces catégories visent à décrire des manières différentes de s'engager dans le monde, de répondre aux occasions ou de se positionner dans les relations. Dans le vocabulaire courant du système, les types incluent notamment jeu générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur et manifesteur générateur. La stratégie ne correspond pas à une recette de réussite ni à une norme morale. Elle sert plutôt de règle d'observation avant de forcer une initiative. Le lecteur est invité à examiner la manière dont une situation se présente et la qualité de sa réponse. Ce cadre déplace le regard des explications générales de personnalité vers la dynamique de décision et de timing. Il peut aider à formuler des questions concrètes sur la fatigue, la frustration, la reconnaissance ou la résistance rencontrées dans les échanges. Cependant, les types restent des catégories internes au design humain. Ils ne doivent pas être utilisés pour enfermer autrui dans un rôle. Prédire de manière certaine les capacités professionnelles ou justifier des décisions importantes sans analyse complémentaire, l'intérêt du livre est de détailler le rôle de ces repères dans un ensemble plus vaste, plutôt que de les traiter comme des étiquettes isolées. Troisièmement, l'autorité intérieure et la distinction entre décision mentale et décision située. Une idée majeure de la science de la différenciation est que la prise de décision ne devrait pas être ramenée au raisonnement mental seul. Le système emploie le terme « autorité intérieure » pour désigner le processus décisionnel censé être indiqué par la configuration de la carte. Selon les cas, cette autorité peut être associée à une réponse corporelle immédiate, à un temps de clarification émotionnelle ou à d'autres mécanismes propres au cadre du design humain. Le livre conduit ainsi le lecteur à séparer deux opérations souvent confondues, analyser une situation et décider du moment ou de la direction appropriée. Cette distinction explique pourquoi l'ouvrage insiste sur l'observation dans la durée plutôt que sur une adhésion intellectuelle instantanée. Dans une utilisation prudente, la notion peut encourager une attention plus fine aux réactions, aux délais nécessaires et aux influences sociales qui pèsent sur un choix. Elle ne remplace toutefois ni les informations factuelles, ni le consentement éclairé, ni les conseils compétents dans les domaines médicaux, juridiques ou financiers. La portée du concept est donc réflexive. Il propose un protocole personnel de questionnement à partir des termes du système. Le lecteur gagne à évaluer si ce protocole éclaire réellement son expérience, sans lui attribuer une autorité objective qu'il ne revendique pas scientifiquement. Quatrièmement, centre défini et ouvert pour penser constance, réceptivité et conditionnement. Les 9 centres constituent un des aspects les plus techniques de la présentation. Le livre les utilise pour examiner différentes fonctions que le design humain associe notamment à la pression, à la conscience, à la communication, à la direction, à la vitalité ou aux émotions. Leur statut défini ou ouvert modifie leur lecture. Un centre défini est présenté comme une source de continuité dans la façon dont une personne exprime ou traite cette fonction. Un centre ouvert est présenté comme un domaine de réception, d'amplification et d'apprentissage possible à partir de l'environnement. Cette opposition ne doit pas être comprise comme une hiérarchie entre force et faiblesse. Le projet de différenciation cherche justement à éviter une lecture déficitaire des zones ouvertes. Celles-ci sont décrites comme des lieux où les attentes collectives et les habitudes relationnelles peuvent être particulièrement perceptibles. L'intérêt analytique de ce modèle est de rendre plus précise la question du conditionnement. Une réaction appartient, elle, à une préférence durable ou à une adaptation au contexte présent. Cette grille peut soutenir une auto-observation attentive dans les relations familiales et professionnelles. Elle demeure néanmoins symbolique. Le livre ne fournit pas un instrument de mesure validé des influences sociales et ne peut établir, à lui seul, la cause de difficultés émotionnelles ou comportementales. En dernier lieu, profils, canaux et portes dans une lecture relationnelle de la singularité. Au-delà du type et des centres, l'ouvrage présente des niveaux de lecture plus détaillés, dont les profils, les canaux et les portes. Les profils combinent des lignes qui décrivent, dans le langage du système, une manière récurrente de se situer entre apprentissage, relation aux autres, expérimentation et rôle social. Les canaux relient les centres et signalent les thématiques énergétiques auxquelles le design humain attribue une continuité. Les portes apportent une granularité supplémentaire, inspirée par la structure symbolique utilisée par le système. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi deux personnes d'un même type peuvent recevoir des descriptions très différentes. Ils font aussi passer la lecture de la catégorie générale à une configuration individualisée. La complexité qui en résulte est une caractéristique importante du livre de référence. Il ne réduit pas la démarche à quelques énoncés facilement partageables. Cette richesse peut être utile à un lecteur qui souhaite consulter sa carte avec méthode et vérifier la cohérence des notions entre elles. Elle comporte également un risque de surinterprétation. Plus une grille est détaillée, plus il devient facile de trouver après coup une explication à toute expérience. Une lecture rigoureuse demande donc de conserver les interprétations comme des hypothèses de réflexion, de distinguer description et causalité, et de ne pas substituer le vocabulaire du système à une connaissance concrète de soi et des situations. En conclusion, ce livre convient surtout aux lecteurs francophones qui souhaitent disposer d'une présentation structurée et approfondie du design humain, plutôt que d'une introduction limitée aux catégories les plus populaires. Il sera utile aux personnes déjà familiarisées avec une carte individuelle et désireuses de comprendre comment type, stratégie, autorité, centre, profil, canaux et portes s'articulent dans le même langage. Il peut également intéresser les praticiens de l'accompagnement qui veulent connaître les termes et les limites d'un système rencontré chez certains clients sans nécessairement en adopter les présupposés. Son bénéfice principal est conceptuel et pratique à la fois. Il donne une architecture pour organiser l'observation de ses réactions, de ses décisions et de ses interactions, tout en mettant l'accent sur la singularité des configurations plutôt que sur des conseils universels. Par comparaison avec de nombreux ouvrages de vulgarisation sur le design humain, ce volume se distingue par son ambition de référence et par la place accordée aux composantes techniques de la carte. Il ne se présente pas seulement comme un guide d'inspiration personnelle. Il cherche à exposer le système dans sa cohérence interne. Cette qualité impose une lecture lente et critique. Les lecteurs qui recherchent des conclusions validées par la recherche psychologique ou biomédicale devront garder à l'esprit que le design humain ne relève pas d'une science établie au sens académique. Pour les autres, l'ouvrage offre un cadre détaillé à examiner comme outil symbolique de réflexion, non comme vérité démontrée ou substitut à un jugement informé. Si vous souhaitez soutenir Linda Bunnell, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description de ce podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.